France Info. France Info, les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info sur la radio, le canal 27 de la TNT, sur vos ordinateurs et tablettes franceinfo.fr. Soyez les bienvenus. Alors pour commenter l'actualité politique de la journée, mais aussi de la semaine, j'accueille François Ehrenwein. Bonsoir François.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du quotidien La Croix. À vos côtés, Maude Guillaumin. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, documentariste. En face de vous, Laurent Mauduit. Bonsoir.
Bonsoir
Laurent.
Pierre.
Journaliste cofondateur du site Mediapart, bon anniversaire, les 10 ans aujourd'hui.
Exactement.
Ce week-end.
Ça fait exactement 10 ans et pour célébrer l'événement, le site est un accès libre. Donc il y a 10 ans d'archives, de scoops.
Attention, c'est open bar jusqu'à quelle heure?
Minuit.
Ah voilà. Et à côté de vous, Laurent, Hervé Gauthier, qu'on retrouve avec plaisir. Bonsoir Hervé.
Bonsoir,
rédacteur
Pierre.
En chef au service économie et social de France Télévisions. Allez, au sommaire de ces informés de France Info. Une élection présidentielle jouée d'avance en Russie. Vladimir Poutine est reconduit à la tête du pays jusqu'en 2024. Mais les points de friction sont nombreux sur la scène internationale, la Syrie, la Grande-Bretagne. Je demanderai à nos débatteurs quelle attitude adopter face au maître du Kremlin. En France, le gouvernement réforme au pas de charge. Les syndicats appellent à des journées d'action. Première grève, première manifestation en fin de semaine. Bruno Le Maire prévient, nous tiendrons. Et puis nous parlerons de la méthode Macron. Le président dicte son programme et sa communication. La critique des journalistes devient récurrente, mais il n'est pas le seul à se livrer à ce que l'on appelle le média bashing. On parlera de l'indépendance, de la liberté de la presse dans ces informés de France Info. Et comme dimanche dernier dans ces informés de France Info, on parle du scrutin présidentiel en Russie pour une centaine de millions d'électeurs. À la sortie des urnes, les premières tendances confirment une réélection jusqu'en 2024 pour le président Vladimir Poutine. Plus de 70% des suffrages. Alors depuis 18 ans, le chef du Kremlin a redonné toute sa fierté à la population russe sur le plan international. On en débat avec vous ce soir. Est-ce que l'on peut dire, François Ehrenwein, que Vladimir Poutine a construit sa politique internationale sur un rapport de force?
Clairement, je crois que dans son souci de rétablir la grandeur russe perdue, considérait-il, après la chute du mur, il a construit une stratégie de conquête. Un glacis autour de la Russie avec...
L'Ukraine, la Crimée...
Voilà, exactement.
Et la Syrie aujourd'hui.
D'une certaine façon, ça a provoqué de nombreux débats en Occident, mais en Russie, ça lui vaut l'estime, la considération de beaucoup de Russes. Parce que cette perte de grandeur, on l'évoquait la semaine dernière, est quand même au cœur des inquiétudes russes. Donc c'est sur ce plan-là qu'il a bâti son succès. Mais la question qui est posée aujourd'hui, ces coups de force en Crimée, on l'évoquait tout à l'heure, en Ukraine, à Sébastopol, enfin, un peu partout, en Syrie, etc., en Grande-Bretagne, en faisant tuer un agent double, ça fait vraiment beaucoup, et je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où les Occidentaux, après le long remords qui consistait à ne pas être trop dur avec les Russes, on choisit de frapper un grand coup.
Vladimir Poutine profite des faiblesses des Occidentaux, un peu sur la scène internationale.
Alors ça, c'est sûr qu'il
faiblesse en Europe, faiblesse aux États-Unis, parce qu'il y a des indécisions. Il y a eu des indécisions avec Barack Obama sur la Syrie. Et puis maintenant, il y a une grande période de flottement avec Trump aussi.
Alors, on voit bien que Trump, sur ce sujet, est d'ailleurs assez timide. Lui, qui d'habitude est très véhément, a dit, il semble en effet, pour l'histoire de l'espion assassiné à Londres, enfin pardon,
pour l'instant, il est dans un état grave
voilà,
avec sa fille.
Donc,
n'est pas encore décédé.
Mais donc cette tentative d'assassinat, il a dit qu'il semble que ce soit les Russes, mais c'est pas plus avancé que ça. On voit bien donc qu'il y a une méfiance des États-Unis. On essaye de pas trop attaquer Poutine. En effet, c'est quand même l'homme fort qui a réussi, que ce soit pour la crise ukrainienne, il avait quand même réussi à s'opposer à tout le monde, et à chaque fois il en sort vainqueur.
Malgré les sanctions internationales.
Malgré les sanctions, elles sont pourtant lourdes. Et là, l'élection prouve encore une fois qu'il prouve qu'il faut un leader fort. Et les Russes aiment ça. Ils disent en effet, regardez, tout le monde est contre nous. Ces sanctions, elles ont aussi été très mal prises, même par certains opposants à Poutine, qui disent, mais pourquoi chasser les diplomates russes? Pourquoi plutôt ne pas geler certains actifs des proches de Poutine? Là, c'est nous qu'on attaque aussi. Et donc, du coup, il se sert de tout ça, et je pense que cette faiblesse de l'international qui ne sait pas comment agir vis-à-vis de Poutine, et la crise syrienne le prouve également, il a réussi à re-rentrer dans le jeu. Il était en effet très exclu après la crise en Ukraine, mais là avec la Syrie, il a réussi à re-rentrer dans le jeu, et je pense que ce lien entre l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre et la France, eh bien, c'est d'un seul coup essayer de montrer qu'on est tous unis, mais en fait, ils ne savent pas comment agir.
Et Vladimir Poutine trouve de nouvelles alliances avec l'Iran sur le domaine du nucléaire, avec le voisin chinois. Il est obligé aussi de composer, Hervé Gauthier.
Oui, je crois que le problème, c'est qu'effectivement, il fait preuve d'un certain cynisme sur la scène internationale, mais tout simplement parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il est très puissant.
Militairement. Il est puissant militairement,
politiquement, diplomatiquement, voilà, c'est une puissance qui compte énormément. Moi, j'ai pas l'impression qu'on réagit très fortement. Enfin, on réagit à la hauteur de ce qu'on peut, parce que c'est aussi
donc,
ça la réalité.
Le président Macron ne va pas inaugurer le salon du livre. Enfin, la partie
il va bouder le stand des Russes au salon du livre. On va les Britanniques vont expulser 23 diplomates. Bon, très bien. On nous promet qu'il y aura il y aura des sanctions, on ne sait pas encore lesquelles. Jusqu'à présent, les sanctions, on le disait sur la Crimée et le Donbass, ça n'a pas donné grand-chose. Moi, je pense que la réalité, c'est que, et économiquement et diplomatiquement, c'est difficile de se passer des Russes, et que sur l'aspect sanctions, on avance avec beaucoup de prudence.
J'attends avec impatience votre commentaire, Laurent Mauduit, dans quelques secondes. Ça s'appelle faire du teasing, parce qu'il est 20h10 sur France Info, l'essentiel de l'info tout de suite avec vous, Julie Smul.
Vladimir Poutine réélu à la tête de la Russie, 73,9% des voix, d'après un sondage sorti des urnes. Résultat définitif attendu dans la soirée. Mais on se dirige vraisemblablement vers un quatrième mandat pour le président russe au pouvoir depuis 18 ans. Alors que ses opposants dénoncent des fraudes aujourd'hui dans ce scrutin, une partie de la population aurait été forcée d'aller voter. Des observateurs internationaux auraient également été menacés. Élection aussi aujourd'hui à Mayotte, législative partielle, scrutin qui est loin de passionner la population en pleine crise sociale depuis un mois. 12% de participation seulement ce midi à Mamoudzou, la ville principale du 101e département français. La crise de folie d'un patient aujourd'hui à l'hôpital de Rion, dans le Puy-de-Dôme. Il a blessé 6 personnes, un médecin, 2 infirmiers, un ambulancier et 2 agents de sécurité. Un déchaînement de violence, des coups et des morsures, d'après les témoins. Ce patient a été maîtrisé et transféré au CHU de Clermont-Ferrand. Un appel à la prudence ce soir sur les routes. La Normandie et l'Île-de-France placées en vigilance orange, neige et verglas. 9 départements en tout sur une ligne qui va du Calvados à l'Essonne en passant par Paris et sa petite couronne. Alerte Météo France maintenue jusqu'à 10h demain matin.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info avec François Hernenwein, avec Maud Guillaumin, avec Hervé Gauthier, Laurent Mauduit, Mediapart. Je ne vous ai pas entendu encore vous exprimer sur Vladimir Poutine, sur le maître du Kremlin. Écoutez, sur son règne à l'international. Est-ce qu'il faut couper les ponts avec le maître du Kremlin?
En tout cas, à mon avis, il faut interroger les postures ou les positions parfois ambiguës. Plus qu'ambigu, complaisante parfois de certaines démocraties, parce que au soir de cette victoire, on ne peut pas ne pas s'empêcher de constater que ce type de régime autoritaire a plutôt tendance à faire école. Regardez ce qui s'est passé
dans le monde ces derniers mois ou ces dernières années, avec un régime tyrannique de Sissi en Égypte, qui était l'un des pays où il y a eu la révolution démocratique arabe.
Regardez, il y aura des élections.
Erdogan en Turquie. Alors, il y a d'une part cette tendance-là, et puis il y a par ailleurs le regard de certains, dans certaines démocraties, sur ces régimes. Moi, j'étais très frappé en écoutant le propos très inquiétant, me semble-t-il, de Nicolas Sarkozy, qui était à une conférence à Abu Dhabi il y a 10 jours, hein, ou 15 jours, conférence rémunérée, comme il le fait, comme font d'autres chefs d'État, et le cœur de son propos, c'était une sorte de plaidoyer pour le charme discret de la dictature. Je pèse mes mots. Hein. Le cœur de son propos, c'était de dire que les démocraties détruisent les leaderships, et ce qu'il faut, c'est des hommes forts. Alors c'est vrai que la France a une vieille tradition, hein, c'est le bonapartisme, le présidentialisme. Hein, nous n'avons pas des institutions très démocratiques, mais voilà, tenir ce propos sur ce genre de système politique est inquiétant, et ça nous met dans des positions compliquées pour ensuite combattre les enfreintes aux libertés publiques dans ces pays.
Alors, quelle attitude à avoir vis-à-vis du patron de la Russie, Vladimir Poutine? Eh bien, l'ancien Premier ministre français, ancien chef de la diplomatie, Dominique de Villepin, était l'invité de l'émission Le Grand Jury RTL, LCI, Le Figaro à la mi-journée. Eh bien, il invite tout simplement le président Macron à faire preuve de fermeté, mais dit-il, à ne pas se braquer.
Dans ce contexte international, nous ne devons pas oublier, nous Français et Européens, que notre destin se joue avec la Russie et certainement pas contre. Parce que aujourd'hui, notre Europe, elle n'est pas indépendante. Donc je dis simplement, construisons une Europe indépendante avec une défense forte qui soit dans notre main, ne soyons pas trop dépendants des États-Unis. Oui, mais... Et deuxièmement, faisons en sorte de nouer une relation spéciale avec la Russie parce que les Russes veulent être européens.
Mais nous... Une relation spéciale avec la Russie. Emmanuel Macron essaye, hein, depuis sa prise de fonction au mois de mai. Il a accueilli Vladimir Poutine à Versailles, mais...
Et d'ailleurs, il a répété à plusieurs reprises qu'il dialoguait avec tout le monde. Mais en fait, cette relation spéciale, elle existe déjà. C'est pour ça qu'il y a une difficulté, de toute façon, d'une manière générale, pour l'Europe et pour la France en particulier, à prendre le risque de rompre le fil avec la Russie, parce que rompre le fil d'un point de vue économique, il faut savoir que justement la France est quand même le premier investisseur, un des premiers investisseurs au monde en Russie. C'est 11 milliards d'euros d'échanges commerciaux, donc c'est extrêmement important pour nous.
Et puis on a vu l'effet négatif de l'affaire des frégates, lorsque elles n'ont pas été livrées à la Russie. On a vu l'effet négatif.
Absolument.
Donc il faut continuer à discuter.
Et puis il ne faut pas oublier que dans l'autre sens, la Russie est le plus gros fournisseur d'hydrocarbures pour l'ensemble de l'Union européenne, le gaz et le pétrole. Donc d'un point de vue économique déjà, on ne peut pas trop rompre le fil. Et puis d'un point de vue diplomatique, c'est compliqué aussi, parce que si vous rompez le fil, ça veut dire que vous rompez le fil derrière avec la Syrie, avec la Turquie, c'est toute une zone du monde qui nous échappe. Donc voilà, on peut faire preuve de fermeté, mais en même temps, il y a aussi une réelle politique qui s'installe chez
la
nous.
La réelle politique française, Anne Wein.
Moi, je crains qu'on mélange tout. D'un point de vue géostratégique, il est évident qu'il faut avoir de bonnes relations avec la Russie. Mais Vladimir Poutine, on l'a constaté en Syrie, on a fait l'énumération en Grande-Bretagne ou ailleurs, s'est conduit ces derniers temps comme un voyou. Et donc, ce comportement-là, de la part des démocraties, malgré tous les intérêts croisés évoqués à l'instant par Hervé, nécessite que les démocraties produisent un discours dur face aux pratiques de Poutine. Parce que si on le laisse s'installer dans cette logique-là, il continuera à pousser ses pions. Il y a un sommet européen cette semaine, et je pense qu'il faudra attendre des dirigeants européens qu'ils organisent, comme les États-Unis sur l'affaire de l'ingérence dans la campagne américaine, des gels d'avoir, des sanctions économiques, malgré les intérêts croisés qu'on évoquait tout à l'heure, parce que le comportement de Vladimir Poutine, aussi attaché qu'on soit à la grandeur russe, à l'idée qu'on se fait du rôle que la Russie peut jouer dans le monde, le comportement de Vladimir Poutine impose une réaction aujourd'hui. Et les Occidentaux feraient preuve, après de nombreux abandons ces dernières années, à l'est de l'Ukraine, etc., feraient preuve d'une très grande faiblesse en ne prenant pas la mesure du danger.
Maud Guillaume, il n'y a pas de bloc européen pour parler à Vladimir Poutine. Il y a des personnalités, Emmanuel Macron, Angela Merkel.
Il y a quand même eu un texte commun des gouvernements, donc français, américain, allemand.
Après cette histoire d'empoisonnement.
Mais en effet, alors... On peut dire que dans l'action de Theresa May, elle a vraiment voulu diplomatiquement marquer un grand coup.
Elle n'a pas le choix.
Elle n'avait pas le choix. Elle voulait aussi. Elle a aussi son rôle à jouer. Hein. Elle aussi, elle est complètement
exclue par son Brexit.
Avec le Brexit. Donc c'est aussi une occasion de se remettre dans le jeu. Hein. Politiquement, c'est bien joué et puis c'était l'occasion. Maintenant, il est vrai qu'il n'y a pas de politique commune depuis longtemps par rapport à la Russie. Il y a eu ces sanctions quand même après la crise ukrainienne, mais on voit bien que ces sanctions contre sanctions, c'est on chasse des diplomates. Chasse des diplomates. Et au fond, ça n'avance pas beaucoup. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Et en effet, pour l'instant, on n'ose pas aller plus loin parce qu'il y a l'enjeu économique qui bloque tout. Et si jamais les Américains osaient aller plus loin, mais ils n'osent pas non plus, on dit que c'est parce que Poutine a certainement des pions, des éléments contre Trump. C'est possible. Mais en effet, on voit bien que pour l'instant, c'est une politique qui reste faible et qui n'avance que peu.
Laurent Mauduit, cette place de la France, justement.
Oui, mais ce qui est attristant, je trouve, c'est que sa diplomatie, en tout cas, c'est le sentiment qu'elle donne, n'est jamais animée par des principes. Tout à l'heure, j'évoquais le général Sisi en Égypte. C'est-à-dire, au moment des révolutions démocratiques arabes, il y aurait eu un fil assez simple, qui est la défense des libertés, et des valeurs universelles. Or, on l'a pas fait. On a armé le général Sisi contre son peuple. Et donc, pour beaucoup, dans beaucoup de pays arabes, la position de la France était intenable, insoutenable, incompréhensible. Et donc, ensuite, dès lors qu'on lâche le fil des principes, des valeurs, on tombe dans des problème insoluble de réel politique. Et donc, du coup, on voit un Villepin qui, en d'autres temps, avait défendu des positions de principe beaucoup plus fortes, qui avait parlé au monde, vous vous souvenez, 2001, dire, ben voilà, il faut composer avec Poutine. Composer avec Poutine, qui est l'allié d'Assad. Dire, on ne comprend plus. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que, dans toute question diplomatique, il y ait des valeurs et des principes qui apparaissent.
Un dernier mot sur ce sujet.
Je voulais juste dire que Emmanuel Macron, de toute manière, il est un petit peu bloqué. Hein. Après ce qui s'est passé à Versailles l'année dernière, si maintenant...
Il y avait eu quand même un grand coup de froid à Versailles. C'était pas le réchauffement des relations. Voilà. Parce qu'il y avait eu toute une campagne de dénigrement lors de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron.
Et on voit justement que Poutine, alors que justement il y a cette ingérence russe dans les élections, aussi bien américaines que françaises, là aussi, du coup, on pourrait d'autant plus essayer de frapper un grand coup, comme vous dites, et on n'y arrive pas. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a commencé cette politique de la main tendue. C'est difficile aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'il n'aille pas à Saint-Pétersbourg au mois de mai, ça m'étonnerait beaucoup.
Rapidement, François.
Moi, ça m'étonnerait qu'il y aille. Je pense vraisemblablement que sous pression européenne, pression américaine, ce voyage sera remis en cause et je pense que ça aurait un intérêt dans le contexte actuel qu'il n'aille pas à Saint-Pétersbourg.
Arrive autre chose ?
Non, effectivement, oui, il doit aller au Forum économique hein, pour passer à Saint-Pétersbourg les 24 et 25 mai. Effectivement, on peut se demander dans cette situation, bah, ça va le mettre dans une situation difficile. S'il y va pas, ça va être un marqueur fort. Mais qui risque de refroidir encore plus ses relations avec Moscou. Et s'il y va, il va devoir rendre des comptes à ses homologues.
Il y avait des contrats en jeu. Hein.
Oui.
En même temps.
En même temps, toujours le même temps.
Voilà, la réelle politique. Dans un instant, sur France Info, on va parler de cette semaine sociale qui s'annonce, peut-être agitée, des grèves, des manifestations. On voit cela dans un instant, mais d'abord, l'essentiel de l'info à 20h20, Julie Smul.
On attendait un triomphe, c'est pratiquement confirmé. Vladimir Poutine réélu président de la Russie avec 73,9% des voix d'après un sondage sorti des urnes. C'est mieux qu'en 2012 où il avait récolté 63,6% des suffrages. Son principal rival, le communiste Pavel Groudinin, enregistre à peine plus de 11%. Un scrutin dénoncé aujourd'hui par les opposants du président. Il parle de bourrage des urnes. Certains Russes auraient été forcés d'aller voter par leurs employeurs. C'est une image très rare. Bachar al-Assad aux côtés de ses soldats dans la Ghouta orientale. Dernier fief rebelle tout près de Damas sous les bombes du régime depuis un mois. C'est la première visite du président sur place depuis des années. Pendant ce temps-là, au nord-ouest du pays, le drapeau turc flotte aujourd'hui sur Afrin. La Turquie a repris le contrôle de la ville aux Kurdes après deux mois d'offensive. Un skieur allemand de 25 ans tué aujourd'hui dans une avalanche à Chamchaud en Isère. Une Canadienne a également été gravement blessée. Ce sont deux autres skieurs de leur groupe qui ont donné l'alerte vers midi. La 30e journée de Ligue 1, suite et fin avec le choc des Olympiques, les Lyonnais contre les Marseillais à 21h tout à l'heure. Avant ça aujourd'hui, victoire de Saint-Etienne 2-0 face à Guingamp, du PSG 2-1 contre Nice et puis match nul 1 partout entre Metz et Nantes.
France Info. Les informés Pierre Neveu.
Les informés de France Info ce soir avec Hervé Gocho, avec Laurent Mauduit, avec Maud Guillaumin, avec François Hernenwein. On va aborder à présent cette semaine sociale importante à venir. Des arrêts de travail, des manifestations à la SNCF, à la RATP, Air France, sa filiale Hop, la fonction publique également. Alors sans attendre le coup d'envoi de cette semaine de mobilisation, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, prévient les cheminots face à la grève. Il dit « nous tiendrons ». Il était l'invité de l'émission « Questions politiques » sur France Inter et France Info à la mi-journée.
J'ai un peu de mal à comprendre qu'au moment où nous sommes en train de discuter de l'avenir de la SNCF, la grève soit un préalable. Pourquoi lancer immédiatement une grève qui, pour le coup, va pénaliser lourdement les usagers alors même que les discussions ne sont pas encore achevées? Moi, je trouve que ça, ce sont des réactions datées. Cette idée de faire grève pour menacer.
Il y a une culture de la grève à la SNCF?
Ce que je constate, c'est qu'il y a une pratique de la grève plus qu'une culture de la grève.
Laurent Mauduit, des réactions datées, dit le ministre Bruno Le Maire. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop droit dans ses bottes?
Faire grève, c'est archéo, tandis que privatiser la SNCF, c'est moderne. Vous connaissez cette sémantique absolument invraisemblable. À mon avis, ce qu'il faut bien mesurer, et on le dit pas assez, c'est que le cœur du modèle social français, ce n'est pas la protection sociale. La protection sociale, c'est une tradition qui nous vient de Bismarck. L'apport français au modèle social d'Europe continentale, ce sont les services publics. C'est ça le véritable apport, c'est ce qu'explique très bien un professeur de droit au Collège de France, Alain Supiot. C'est le cœur. Or, on a privatisé un premier service public, France Télécom. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, je me suis amusé à retrouver le rapport Delebarre d'un ancien ministre qui disait « voilà ce qu'on devrait faire ». Et les promesses qui étaient faites, elles sont formidables. On ouvre un peu le capital, mais on change de statut. Il n'y aura pas de privatisation. Engagement solennel, pas de privatisation. Deux, on maintiendra le service public des télécoms, l'égalité des tarifs, péréquation, etc. Trois, ce sera une vitrine sociale. Vous savez ce qu'il y a eu après, les suicides. Et donc, quand on regarde les mensonges sur France Télécom, et c'est les fonctionnaires les connaissent, on mesure à quel point le discours gouvernemental est sans doute mensonger, parce que c'est la même chose que l'on prépare. C'est une duperie. On va aller à petits pas vers une privatisation de la SNCF. C'est ça qu'engage le changement de statut. Sinon, il n'y aurait pas de changement de statut.
Il y a un printemps social qui arrive, selon vous, en ce moment?
Écoutez, la grève est atypique, donc je ne sais pas ce que ça donne.
Notamment pour la SNCF.
Quand on parle avec des cheminots, vous en avez interviewé, nous en avons interviewé sur Mediapart, tout est possible. Il se peut très bien que les trois premiers jours déclenchent ensuite un mouvement spontané de là-bas. Je n'en sais rien. Je ne fais pas de prévision, de météorologie sociale. Mais on sent une colère et je pense que dans la population, il y a cet attachement au service public. Et on le sent bien. Et donc je pense que... Et en plus, le gouvernement, quand il dit ça... c'est archéo, d'accord. Alors, c'est pas archéo de sortir les ordonnances. Ça date de la monarchie, les ordonnances. Vous vous souvenez, les ordonnances.
Tous les gouvernements les ont
utilisées. De 1830,
de droite comme de
qui ont déclenché les Trois Glorieuses. C'est au cœur du système monarchique, les ordonnances. C'est le coup de force. Donc voilà, le gouvernement prend un grand risque.
La mobilisation syndicale.
Moi, je ne suis d'accord avec Laurent que sur deux points. Un, je pense qu'il y a effectivement un attachement au service public et notamment à la SNCF publique. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, c'est difficile de faire de la météo sociale et qu'on ne sait pas très bien où on va avec ce mouvement. En revanche, sur tout le reste, moi, je ne crois pas du tout à la privatisation de la SNCF. Le changement du statut de l'entreprise ne veut pas dire forcément une ouverture du capital. Il n'est pas fait, d'ailleurs, pour ces raisons-là. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que ce n'est pas, en l'occurrence, ce dont il est question. Il y a beaucoup d'autres échéances en ce qui concerne la SNCF qui sont très importantes dans la réforme, mais je ne pense pas que ça en fasse réellement partie. Pour le reste, les cheminots, ils sont un peu tout seuls dans ce mouvement-là. Alors oui, il y a Air France,
il y a la fonction publique.
Il y a la fonction publique.
Il y avait les EHPAD dans la rue, les retraités cette semaine.
Oui, mais c'est des petits mouvements.
Oui, mais à chaque fois, ce sont des mouvements, enfin, qui durent une journée. On n'est pas dans une
grève. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne avec les retraités,
une grève récurrente.
Hier, avec les retraités.
Moi, j'y crois pas trop. Honnêtement, je crois pas qu'il y ait une agrégation comme ça d'une contestation sociale qui apparaîtrait d'un seul coup. Le gouvernement est d'ailleurs assez habilement en train de pousser un peu les cheminots dans les cordes, en les poussant à laisser croire que finalement, ils ne vont faire grève que pour la défense de leur statut. Après on va rapidement franchir le Rubicon en disant que c'est pour défendre leurs privilèges. Et là-dessus, ça va pas être facile pour eux effectivement de le défendre, parce que quand le gouvernement dit pour la SNCF il s'agit qu'elle tourne mieux et qu'elle soit plus opérationnelle pour l'ouverture à la concurrence, qui va aller dire qu'il n'est pas d'accord avec ça?
On va poursuivre ce débat dans quelques instants sur France Info. Vous savez, il y a un rendez-vous traditionnel, la météo, les infos. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes pour continuer à parler de la SNCF, des manifestations, des possibles grèves à venir. Et on parlera également des réformes menées au pas de charge par le chef de l'État et par le gouvernement. Restez avec nous sur France Info.
France Info Trafic avec Calibat, 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Alors en bord, on fait un point circulation avec vous au PC Mobilité de Radio France. Où se trouvent les problèmes en ce dimanche soir?
Eh bien en ce moment, c'est dans l'est de la France puisqu'un accident s'est produit sur la 4 entre Paris et Strasbourg en direction de Paris. Après la bifurcation avec la 35 au niveau de Vendenheim, c'est dans le Bas-Rhin. Une voie de circulation est neutralisée. En conséquence, il y a 2 km de bouchons dans ce secteur. Et puis en région parisienne, 2 accidents actuellement, notamment cet accident qui s'est produit au nord de Paris sur le barreau de liaison entre la 86 et la 1, barreau de liaison intérieur au niveau de la Courneuve. La voie de droite est neutralisée. Il y a 3 km de circulation en accordéon dans cette zone.
Merci Laurent Borde. La météo à présent.
France Info Météo avec le CIC, banque d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Le froid, la neige et Jean-Michel Golinski à Météo France.
Cette nuit, les gelées ne vont épargner que le sud de la Garonne et le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, il faudra compter entre moins 2 et moins 4 degrés au lever du jour, avec la nuit prochaine des chutes de neige de l'ordre de 2 à 5 cm sur les départements de la région parisienne et de la Normandie placés en vigilance orange. Demain, les maximales de la moitié nord du pays vont plafonner comme aujourd'hui entre 2 et 5 degrés. Dans le sud-ouest, les valeurs vont fléchir avec 8 à Toulouse et à Biarritz et rester stationnaires près de la Méditerranée où le vent modéré va chasser les nuages, alors que sur le reste du pays, la nébulosité sera importante, malgré le retour d'un temps sec, du nord de la Loire au nord-est jusqu'au Val-de-Saône, du Massif central à Rhône-Alpes, le ciel va hésiter entre l'éclaircie et l'averse, enfin de la Vendée aux Pyrénées, le temps sera particulièrement agité, pluvieux et orageux, avec du vent à 90 km à l'heure sur les côtes et pas mal de neige à basse altitude sur les Pyrénées.
Vous écoutez France Info, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
À l'info, Emmanuel Langlois.
Bonsoir, c'est pas une surprise. Vladimir Poutine est réélu pour un nouveau mandat, le 4e au Kremlin. L'homme fort de la Russie récolte 73,9% des suffrages d'après un sondage à la sortie des urnes. Son rival communiste arrive second avec un peu plus de 11% des voix. L'opposition et des ONG dénoncent déjà des milliers d'irrégularités. Un mort, une blessée grave dans une avalanche. Ça s'est passé à Chamchaud dans le massif de la Chartreuse en Isère. La personne décédée est un jeune Allemand âgé de 25 ans. L'autre victime gravement blessée est une skieuse canadienne. Ils évoluaient tous au sein d'un groupe de 4 skieurs. Ils ont été surpris par une plaque avant. Les 2 victimes emportées ont percuté les paravalanches situées en contrebas. Ils évoluaient dans un secteur hors piste. Julien Morin.
Les 4 skieurs évoluaient sur la face ouest de Chamchaud dans le secteur des paravalanches, une zone très pentue que l'on peut éviter en empruntant la voie normale, et c'est là qu'ils ont été surpris par une plaque avant. La coulée longue d'une centaine de mètres a donc emporté 2 des 4 skieurs, un jeune Allemand âgé de 25 ans et une skieuse d'origine canadienne. Les 2 n'ont pas été ensevelis, mais l'Allemand a percuté les paravalanches et vraisemblablement c'est ce choc violent qui est à l'origine de sa mort. arrivée sur place, les secours ont tenté de le ranimer, mais en vain. La skieuse canadienne, elle, est grièvement blessée au niveau du dos. Son évacuation vers l'hôpital de Grenoble a pris du temps du fait de la météo. Une importante masse de nuages au sommet empêchait l'hélicoptère de la sécurité civile de se poser. Elle a donc d'abord été descendue en traîneau avant d'être héliportée.
Julien Morin, un concours de labour qui tourne mal à Bayargues dans l'Hérault, deux chevaux de trait en train d'être ferrés se sont emballés. Ils ont embarqué la barrière métallique à laquelle ils étaient attachés, qui a violemment percuté 6 personnes, dont une femme de 30 ans grièvement blessée et transportée en urgence au CHU de Montpellier. La tour Eiffel est restée fermée ce matin en raison de la neige et du froid. Le monument n'a rouvert qu'en début d'après-midi. Et puis après l'Île-de-France, conséquence de ce froid, des places supplémentaires sont ouvertes pour les sans-abri dans les Hauts-de-France, le centre-Val de Loire ainsi que la Bretagne, où les maraudes seront également renforcées. Des milliers d'Espagnols dans les rues de Barcelone contre l'indépendance de la Catalogne. La région se retrouve sans gouvernement depuis la déclaration d'indépendance ratée d'octobre dernier. Du football à Nice, le PSG l'emporte 2-1 lors de la 30e journée de Ligue 1. Metz et Nantes font match nul un partout. La victoire de Saint-Etienne sur sa pelouse face à Guingamp 2-0. En attendant le choc d'ici quelques minutes à partir de 21h au Vélodrome, ce sera Marseille contre Lyon. Pour l'heure, voici les informés. Suite et fin, Pierre Neveu.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info, sur France Info, la radio, la télévision, le canal 27, sur vos ordinateurs, franceinfo.fr, avec ce soir François Ernenwein Lacroix, avec Maud Guillaumin, avec Laurent Mauduit, Mediapart et Hervé Gauthier, France Télévisions. On revient sur cette semaine sociale. Le gouvernement mène des réformes au pas de charge. On entend une contestation syndicale, une contestation même au sein même de La République En Marche. Le gouvernement a ouvert une série de chantier. Et le Premier ministre, cet après-midi, au cours d'un séminaire de travail gouvernemental, a justifié la mise en route de toutes ces réformes.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il faut accélérer le rythme des réformes, ralentir le rythme des réformes. C'est une question que je ne me pose pas, car, encore une fois, ce qu'attendent les Français, et ils ont raison, ce sont des résultats. Et nous allons donc travailler pour leur en donner.
Maude Guillaumin, est-ce qu'il y a trop de réformes? Est-ce que ça manque de lisibilité?
Alors c'est vrai que ça donne une impression de pas de charge, hein, en effet, mais je crois que les Français attendaient ça aussi, et c'est justement là-dessus que le gouvernement veut essayer d'impulser ces réformes. Les Français voulaient que ça change, et en effet, je rebondis sur ce que disait Hervé Gauthier, pourquoi cette grève, ça va peut-être pas être le printemps social qu'attendent justement les syndicats. C'est justement parce que, là par exemple, j'ai entendu Olivier Besancenot qui dit « Nous sommes tous des cheminots ». Pourquoi ? Parce que justement, c'était un petit peu ce qui était dit en 1995. Mais oui, avec cette grève, on défend aussi vous, salariés du privé, on vous défend vous. Voilà. Et je pense que c'est un message qui ne passe plus comme il passait en 1995. Aujourd'hui, les gens attendent que ça change. Non, les privilèges des cheminots, eh bien pour eux, ce ne sont pas leurs privilèges à eux. La SNCF, les Français la critiquent. Et pourtant, vous avez raison, ils aiment leur service.
Je vais vous dire ce que j'en pense.
Non, mais ils aiment leur service. Non, mais ils aiment leur service. Ils aiment leur service public.
Ça, il faut le documenter quand même.
Mais c'est vrai que ça peut être antinomique. Parce que justement, ils critiquent la SNCF. En même temps, ils aiment les services publics. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi là-dessus, sur ce mélange des genres, que le gouvernement veut impulser toutes ces réformes qui vont dans ce sens. Et pourquoi ils rebondissent aussi là-dessus? Parce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis la retraite comme en 80. Ils n'ont pas fait l'erreur de Juppé. La retraite, elle est poussée l'année prochaine. Là, on attend gentiment, on attaque la SNCF, qui est déjà un animal déjà très affaibli. Et c'est pour ça que, malgré ce que vous dites, eh bien, aujourd'hui, les Français, ils aiment peut-être leur service public, mais ils sont plus prêts à le défendre de la même manière qu'en 95.
Laurent Mauduit.
Je trouve assez curieux de dire les Français veulent que ça change. Je vous rappelle tout de même que Macron est élu par un vote d'opposition à Le Pen.
Ah oui, mais il critique la SNCF.
Pas d'adhésion à ces projets. Moi, ce qui me frappe beaucoup, pour avoir chroniqué la vie du ministère des Finances pendant près de 40 ans, c'est qu'il y a dans les hautes couches de la fonction publique, dont Macron est l'un des représentants, une conception, comment vous dire,
C'est pas que la démocratie, c'est mauvais, c'est que la démocratie, parfois, c'est une perte de temps. C'est-à-dire qu'on sait tellement bien ce qu'il faut faire sur l'assurance maladie, sur les retraites, sur la SNCF. Pourquoi la retraite, ça, il y a eu 50 rapports depuis 30 ans. Pourquoi négocier? Mais non, allons-y vite, prenons des ordonnances. Et donc, il y a un aspect, voilà, la démocratie, c'est un peu une perte de temps, donc on ne négocie pas. Donc, en fait, c'est une conception de la démocratie sociale qui est très inquiétante. Parce qu'une démocratie, c'est quoi? C'est pas on vote une fois, puis rendez-vous dans 5 ans. Une vraie démocratie de forte intensité, pas comme la nôtre, de basse intensité. C'est un mouvement de respiration en permanence. Et donc, du coup, c'est le risque majeur que prend cette présidence, c'est de passer tout au forceps.
Alors, le passage en force, justement, invité du grand jury RTL Le Figaro à la mi-journée, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin prévient le chef de l'État. Il dit, eh bien, il faut choisir ses combats. Écoutez, faire preuve d'humanité.
Il fait ce qu'il a dit. La question, c'est le rythme des réformes, la modalité des réformes, l'esprit des réformes. Il a engagé une transformation des esprits. Et je crois que c'est l'essentiel. À partir de là, il y a une méthode qui consiste à mettre tous les dossiers de réforme sur la table et en quelque sorte provoquer une sorte d'effet de sidération en se disant passe ce qui doit passer et s'il y a des difficultés, eh bien, on négociera avec les syndicats pour faire en sorte que les choses se déroulent au mieux.
C'est la bonne méthode ?
Mon inquiétude aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un temps nouveau, nous allons bientôt rentrer dans la deuxième année du quinquennat, et qu'il faut faire attention à ce que les oppositions ne se cristallisent pas.
L'effet de sidération, François Arnenweil.
C'est parfaitement écrit, c'est une très bonne analyse, Dominique de Villepin. Je ne sais pas s'il a été un bon gouvernant, mais en tous les cas, comme analyse, c'est assez brillant. Parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est la spirale des réformes. Ce gouvernement compte sur la vitesse et le fait que les Français soient subjugués, et puis sur la méthode, le dialogue avec les partenaires sociaux, il n'y a pas de place pour la négociation, on consulte, et très précisément, les syndicalistes...
On consulte sur un texte qui est déjà écrit.
Pardon ?
On consulte sur un texte qui est déjà écrit.
Voilà, les syndicats l'ont très bien décrit, on leur donne le résultat, et eux doivent participer à l'organisation pour qu'on arrive à ce résultat. C'est antagonique avec l'idée qu'on se fait du dialogue social, où il y a un échange, une négociation, il n'y a pas de négociation. Cette méthode, elle est perverse. Elle permet, comme ça a été évoqué par Laurent tout à l'heure, des avancées spectaculaires tant qu'il y a la sidération, mais quand le moment de sidération sera passé, quand l'inquiétude montera, elle est perceptible dans les sondages dès aujourd'hui, ça sera beaucoup moins facile d'avancer comme ça à marche forcée.
Hervé Gauthier.
Oui, moi je suis assez d'accord avec François Arnenweil, effectivement.
L'effet de souffle.
Oui, c'est ça. Enfin, je lisais ce matin dans le journal du dimanche cet article sur les partenaires sociaux qui sont totalement débordés par la masse de travail, et qui sont complètement rincés, qui laissent leur nuit, leur week-end, etc. C'est tout à fait...
On les oblige à vivre au même rythme que les conseillers du gouvernement, conseillers
du gouvernement. C'est là qu'effectivement c'est pervers, comme dit François. Et je pense que le problème aujourd'hui, c'est pas tant le fait qu'il puisse y avoir trop de réformes, c'est un problème de lisibilité, c'est un problème d'une vision d'ensemble où on a l'impression au bout d'un moment que ça va être un peu tout dans tous les sens.
On la voit bien quand même. Hein, on la voit bien.
Ils sont même débordés eux-mêmes par le rythme puisqu'ils vont quand même déplacer quelques projets de loi à mai,
la loi
à
Pacte,
juin.
Là, voilà. Dont on vient
parce que même eux, ils sont essoufflés par leur propre rythme infernal. On est bien d'accord. Mais en effet, c'est une stratégie pour essouffler les autres aussi, pour qu'il n'y ait pas de réaction. Et puis parce que les Français aujourd'hui sont d'accord et ils ne seront peut-être pas d'accord en 2019.
Les Français sont d'accord.
Non, ils sont d'accord
pour aller vite.
Ils sont d'accord pour le changement.
Pour quel changement? Comment pouvez-vous dire
ça, il faut voir comment il se fait.
Ça me semble invraisemblable.
Les sondages, on voit bien que les Français sont pour le changement.
On va poursuivre ce débat très animé, très intéressant, avec des chiffres, avec des opinions sur France Info. Mais avant cela, à 20h40, l'essentiel de l'info, le résumé de l'info, Julie Smul.
Il va rester à la tête de la Russie jusqu'en 2024. Vladimir Poutine réélu président d'après le sondage sorti des urnes ce soir. 73,9% des voix. Résultat définitif attendu dans la soirée. Participation en baisse, en revanche, 63,7% au lieu des 67% enregistrés en 2012. Les opposants de Poutine, eux, dénoncent ce soir ce scrutin. Ils parlent de bourrage des urnes. Des Russes affirment aussi avoir été forcés d'aller voter par leurs employeurs ou leurs universités. Au moins 17 morts et 15 000 sinistrés à Madagascar après le passage d'une forte tempête tropicale. Des rafales de vent qui ont dépassé les 100 km/h. Ces 10 dernières années, Madagascar a été frappé par plus d'une quarantaine de tempêtes et de cyclones. Le gouvernement tiendra bon face à la grève annoncée à la SNCF. Déclaration ce midi sur France Inter et sur France Info du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Quelle que soit la durée de la mobilisation des cheminots, le gouvernement compte maintenir son cap. Le ministre qui confirme aussi aujourd'hui des privatisations importantes à venir en France, sans donner le détail des entreprises concernées. Les Jeux paralympiques de Pyeongchang, c'est terminé. Record battu pour les athlètes français qui rentrent de Corée du Sud avec 20 médailles. C'est 8 de plus qu'à Sochi. La France, 4e au classement des nations derrière les États-Unis, la Russie et le Canada.
France Info.
Les informés. Pierre Neveu.
Les informés de France Info, on continue à débattre de cette semaine sociale importante qui s'ouvre avec François Hernevagne, Maud Guillaumin, Laurent Mauduit, Hervé Gautreau. L'ancien Premier ministre, M. de Villepin, disait en substance, on mène des réformes au pas de charge lors de la première année du quinquennat. Et puis après, il faut savoir ce poser. Est-ce que c'est un conseil important qu'il donne au chef de l'État, Hervé Gautreau, au risque sinon de s'isoler dans son château?
Oui, au risque effectivement de perdre encore une fois en lisibilité et qu'on ne s'y retrouve plus. Qu'il s'isole dans son château, c'est pas tant qu'il s'isole dans son château, c'est qu'effectivement il est en position de force. Puisqu'il a l'Assemblée nationale, il a, La République En Marche est très dominante, hein, ça c'est certain.
Mais il n'y a pas de relais non plus.
Alors voilà, oui, il n'y a pas vraiment de relais parce que les relais, on leur impose le rythme, on leur impose ce qu'ils veulent ou ce qu'ils doivent faire. Moi, ce que je trouve intéressant, je rejoins ce que disait Maud Guillaumin sur le fait que finalement les Français ont sans doute envie de changement. On va leur faire crédit de ça. C'est vrai que j'en sais trop rien, mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier sondage qui est sorti, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont perdu beaucoup de points, mais ils les ont pas perdus sur le changement ou sur les réformes. Ils l'ont perdu notamment auprès de la colère des retraités. Et je pense que autant exactement, je pense qu'autant François Hollande avait un vrai risque social,
un tiers des électeurs.
Oui, exactement. Et je pense qu'autant François Hollande avait un vrai risque social autour du chômage, où il avait accroché d'une certaine manière son quinquennat au chiffre du chômage, autant je pense que ce qui est en train de se dessiner, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, va avoir un vrai risque social autour du pouvoir d'achat. Et là, on est dans une espèce de creux où on a les effets de la hausse de la CSG qui frappe de plein fouet des retraités qui ne sont compensés par rien. En ce qui concerne les autres salariés ou fonctionnaires, on ne sent pas vraiment de différence. Il va falloir attendre l'automne pour effectivement sentir une vraie différence. Et il y a intérêt à ce qu'elle se sente sérieusement. Et ils ont intérêt à communiquer là-dessus parce que pour l'instant, il y a une espèce de sentiment de creux en disant « mais on nous avait promis des choses et on ne les voit pas arriver ».
François Hernevagne.
Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Hervé. Il ne suffit pas de commenter la forme, l'habileté tactique du gouvernement ou du président de la République dans la conduite des réformes. Il faut regarder le contenu aussi sur la durée. Et je crois qu'il y a des épithètes qui sont accolées au président de la République qui sont peut-être injustes. Mais enfin, on ne peut pas dire que les choix, globalement, ont été des choix équilibrés, que l'effort a été porté équitablement par tous.
On peut dire les choses plus méchamment, même.
Voilà. Hein. Comme je suis bon,
marqué
je ne dis pas.
D'un égoïsme social appuyé.
Ça, c'est en forme de tract ou de caricature. Moi, plus généreusement, je dirais déséquilibré. Donc, je maintiens mon déséquilibré et je dis la chance du gouvernement ou d'Emmanuel Macron dans la suite de la conduite des réformes, c'est de rétablir l'équilibre. Or, là, on n'a pas beaucoup d'indications que ça soit la tendance.
D'autant que les Français entendent quand même que le chômage baisse, que la croissance est de retour, que tous les indicateurs sont ouverts. Donc, ouais, qu'il y a une cagnotte, entre guillemets. Et donc, ils attendent effectivement des résultats. Et je pense que c'est là-dessus qu'il y aura plus un risque social, plus que sur l'avenir du statut des cheminots.
Je peux dire la méthode.
Et ce choix-là n'est pas menaçant pour la réforme.
La méthode. Pendant 30 ans ou 35 ans, le cœur de la politique sociale française, c'était la politique contractuelle. Les partenaires sociaux se voyaient discuter, négocier et trouver trouver un accord. Or, on voit bien que dans le cadre, dans le contexte de la démocratie autoritaire dans lequel nous sommes, la démocratie sociale, progressivement, est arrivée en extinction. Il restait l'assurance chômage où il y avait un lieu de discussion paritaire. Là, rien.
Mais est-ce que les partenaires sociaux existent encore parce que le taux de syndicalisation...
Avec cette politique autoritaire...
Mais très faible.
Les syndicats, on leur demande soit d'approuver, soit de s'écarter. Comment voulez-vous que la démocratie sociale vive? Donc je pense qu'on vit une fracture crise démocratique.
Les syndicalistes n'ont jamais été élus, contrairement aux politiques qui, eux, sont là pour légiférer quand même. Qu'on leur demande leur avis. Oui,
on négocie systématiquement avec eux, je ne suis pas trop d'accord. Donc on vit une crise démocratique, on l'a vu lors des dernières élections, mais on vit aussi une crise de la démocratie sociale et un gouvernement qui ne pense pas à refonder cette démocratie avec des modalités d'élection sûrement, eh bien, évidemment, rentrera un jour ou l'autre en opposition avec les gens auxquels...
Mais moi, je pourrais défendre la démocratie sociale, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est la réforme. On peut très bien souhaiter la démocratie sociale et que la réforme soit conduite dans le dialogue avec la démocratie sociale. Faisons le bilan de gouvernance par les partenaires sociaux. La France a été immobilisée par cette démocratie sociale. La créativité n'a pas été formidable. Et là, c'est un coup de pied dans la fourmilière, et je pense que c'est utile. Après, les modalités, c'est ce qu'on discute.
Je voudrais juste rebondir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué. Non, mais là où vous avez raison par rapport aux ordonnances, c'est qu'en effet, donc ils vont légiférer par ordonnance. Après, ils disent, et si jamais, en gros, si ça se passe bien dans le dialogue social, on pourra intégrer des abonnements lors du débat à l'Assemblée et du projet de loi classique. Donc, le truc, c'est vraiment de dire, bon, on avance parce qu'on ne veut pas de blocage, contrairement à toutes les autres fois, je rejoins ce que vous dites. Et justement, comme ils ont tellement peur de ce blocage, c'est pour ça qu'ils y vont avec, en effet, la manière très forte, la manière autoritaire, parce que vraiment, cette peur, c'est le blocage. Et c'est pour ça que je ne pense pas trop qu'il y aura un vrai printemps social, parce qu'ils ne donneront pas le temps de ce blocage.
Il ne faut pas être complètement injuste. Il ne faut pas être complètement injuste. Parce que quand même, sur la loi travail ou sur l'assurance chômage, il y a quand même un vrai dialogue, et il y a eu des vraies négociations avec les syndicats. Et d'ailleurs, sur l'assurance chômage, par exemple, il y a quand même beaucoup de choses...
Je sens que Hervé Maudieu n'est pas d'accord.
Il y avait quand même beaucoup de choses où Muriel Pénicaud n'était pas trop d'accord au début, puis finalement, elle les a intégrées quand même.
Résumons la méthode choisie, et je pense qu'on va tomber d'accord sur ce plan-là. Le gouvernement a des objectifs, il invite les partenaires sociaux autour de la table de négociation et il les invite à accompagner pour obtenir le résultat qu'il a lui-même fixé.
Ça, c'est sûr.
C'est pas une conception très performante de ce qu'est la négociation.
Il faut bien tenir ce cap-là et ne pas fluctuer. Nous sommes d'accord, là.
Bon, vous savez quoi, on va continuer à parler de la méthode Macron, vis-à-vis des journalistes. Est-ce que les journalistes peuvent s'exprimer, peuvent communiquer d'une façon sereine? Il y a eu quelques escarmouches, quelques bisbilles entre le chef de l'État et la presse. On va voir cela dans un instant, et notamment à l'issue du voyage du chef de l'État en Inde. C'était en début de semaine, ou au cours de la conférence de presse traditionnelle, eh bien le chef de l'État a, entre guillemets, remis en place une journaliste de l'émission Quotidien sur TMT. Avant cela, à 20h, presque 50 minutes sur France Info, l'essentiel de l'info, Julie Smul.
Participation en baisse aujourd'hui pour la présidentielle russe, 63,7% au lieu des 67% enregistrés en 2012. Mais le plébiscite attendu pour Vladimir Poutine se confirme. L'actuel président, au pouvoir depuis 18 ans, est réélu avec 73,9% des voix, d'après un sondage sorti des urnes. Chiffre officiel et définitif attendu dans la soirée. Même chose pour la législative partielle organisée aujourd'hui à Mayotte. Les bureaux de vote de Lille qui sont restés plutôt vides au beau milieu du conflit social qui dure depuis un mois. 12% de participation seulement, par exemple, ce midi à Mamoudzou, ville la plus peuplée. Des scènes de pillage aujourd'hui à Afrin, ville du nord-ouest de la Syrie, ville reprise ce matin aux Kurdes par la Turquie après deux mois d'offensive. Ce sont les alliés des Turcs, les rebelles syriens, qui pillent en ce moment les magasins, les habitations et les bâtiments officiels. 9 départements d'Île-de-France et de Normandie en vigilance orange, neige et verglas. Ça va du Calvados au Val-de-Marne, en passant par Paris et sa petite couronne. En Haute-Marne, département en vigilance jaune, les transports scolaires sont interdits pour la journée de demain. Les établissements, eux, seront ouverts pour accueillir les enfants. Et puis le coup d'envoi dans moins de 10 minutes à 21h du choc de cette 30e journée de Ligue 1, les Lyonnais contre les Marseillais. Avant ça, aujourd'hui, Saint-Etienne a battu Guingamp 2-0. Le PSG s'est imposé 2-1 contre Nice. Et puis un match nul, un partout, entre Metz et Nantes.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info avec François Hahnenwein, Maud Guillaumin, Laurent Mauduit, Hervé Gautreau. On parle de la relation du chef de l'État avec les médias, communication extrêmement contrôlée au niveau notamment de l'image. Et en début de semaine, le chef de l'État était en Inde et lors de la conférence de presse traditionnelle, à l'issue d'une visite devant le Taj Mahal, eh bien, le chef de l'État a été questionné sur cette mise en scène devant le célèbre monument. La réponse du chef de l'État a été cinglante. La journaliste de TMC, écoutez, s'est fait remettre en place.
Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du mot privé, puisqu'hier, il y avait beaucoup de caméras, beaucoup de photographes pendant votre visite privée du Taj Mahal.
Je tiens à vous remercier de l'intérêt de votre question après une visite de 3 jours dans un pays comme l'Inde, qui manifeste toute la richesse que vous avez dû tirer de ce déplacement, tout l'intérêt que vous portez à ces questions stratégiques et à ce que je dis depuis le début de notre rendez-vous. Mais si la frustration de ceux qui n'étaient pas là les conduit à poser des questions de ce type, c'est en effet à se poser la question jusqu'au bout de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias. Mais je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve. S'il y a des questions de fond, je les prends toutes.
Voilà, Maud Guillaumin, plutôt cassant, le chef de l'État.
Alors, je dois avouer que moi, ça m'a fait énormément penser à Nicolas Sarkozy, qui était vraiment coutumier du fait. Il aimait bien prendre à partie une personne, invectiver vraiment de manière très brutale un journaliste, souvent en prenant aussi les autres à témoin, un peu comme des mauvais élèves. Vous avez vu le vilain, là. Vraiment, il faisait ça très, très souvent. Alors, c'est pas la première fois que Emmanuel Macron fait ça. Et pourtant, vous savez, en septembre, il avait déjà dit que les journalistes l'interrogeaient sur sa communication, mais qu'en fait, les journalistes ne parlaient que d'eux et que c'était pas du tout ce dont les Français voulaient parler. Et à côté de ça, en janvier, là, le 4 janvier, il dit qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, on voit avec l'extrait que vous avez passé que c'est faux. Je trouve que cette communication vraiment très, très violente le met pas toujours en valeur et que ça donne pas un côté très moderne. La preuve, c'est que c'est reprendre ce que faisait Sarkozy en 2007. Donc,
à la fois, il y a une communication très léchée au niveau de l'image qui est contrôlée par une photographe officielle de l'agence Best Image, Laurent Mauduit.
Moi, ça m'inspire deux remarques. C'est que la question de Valentine Auberti est légitime. Il met en scène sa vie privée, se fait photographier avec Brigitte. Il est normal qu'on l'interpelle sur sa communication. Et la seconde remarque est peut-être plus grave, plus lourde, c'est qu'on voit bien qu'il y a un média bashing de tous horizons désormais. Wauquiez s'est manifesté, Le Pen, j'en parle pas.
C'est ce que disait Alain Genestard sur l'antenne de France Info ce matin. Genestard, le patron de Polka Magazine.
Chronique remarquable sur France Info de Genestard ce matin, mais aussi Mélenchon. Mélenchon, je vous rappelle sa phrase dans sa dernière chronique, si je la retrouve, non, je ne vais pas la retrouver, c'est la haine.
La haine des médias.
La haine des médias est saine et juste. Mon sentiment personnel, c'est que la critique des médias est légitime. On vit une période en France de régression démocratique majeure avec des milliardaires qui ont croqué la presse et avec des dégâts sur les contenus éditoriaux, des censures, des systèmes d'autocensure. Donc la critique des médias est légitime. Mais il faut défendre la presse. Il faut rappeler que haïr la presse, c'est haïr la démocratie. La presse est au fondement de la démocratie.
Est-ce que vous savez, Laurent, qui a dit « la liberté de la presse, c'est un droit fondamental » Edoui Plenel, hier soir, dans l'émission « On n'est pas couché », Laurent Ruquier sur France 2.
Formidable. Camille Desmoulins, dès le 15 juillet 1789, disait que la presse est la sentinelle de la démocratie. Il faut le rappeler, la sentinelle de la démocratie. Notre fonction, c'est parfois de parler fort pour dire attention, la démocratie est en danger.
Hervé Gauthier.
Oui, d'abord, c'est pas juste une impression. Cette violence de nombreux politiques dont on vient de parler, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez à l'égard de la presse, ça a été compilé et quantifié d'une certaine manière par le rapport de l'Observatoire de la déontologie de l'information qui a été présenté là aux Assises du journalisme à Tours ce week-end, enfin vendredi. Donc ça existe réellement. Et effectivement, je pense que les politiques devraient faire attention à ça, mais... Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est au-delà de ce bruit global, et on se rappelle de la violence de la campagne présidentielle, notamment à ce sujet, c'est ce qui se prépare derrière. Moi, je suis assez inquiet sur que va-t-il sortir de ce projet de loi anti-fake news, anti-fausses nouvelles. Où est-ce que ça va trouver sa place dans un arsenal législatif qui existe déjà aujourd'hui?
La chaîne Rue Chatoudet, notamment.
Mais oui, mais peut-être
non,
pas.
Oui,
peut-être
oui,
pas
non, comme non, ça. Que se passera-t-il? Ça cible surtout la loi fondamentale qui garantit la liberté de la presse, qui est la loi de 1881, qui est toujours le cadre juridique de la presse. C'est un projet
aujourd'hui,
de loi.
Aujourd'hui, il y a la diffamation, il y a la diffusion de fausses nouvelles, qui est pénalement répréhensible. Que se passera-t-il si demain, Laurent Mauduit ou François Hernenwein sortent une enquête sur le Mediator en disant qu'un lanceur d'alerte leur a dit que c'était très dangereux. Est-ce qu'en référé, un juge sera autorisé à dire non, on ne peut pas dire ça et vous êtes obligé de mettre cette enquête sous le boisseau?
Combien d'enquêtes risquent d'être... Contrôle et information, ça mène vite à la censure. Quoi.
Les informés de France Info se terminent. La une de la Croix demain, François Hernenwein.
Les beaux chiffres de la générosité, les Français ont donné l'an passé 7 milliards.
Laurent Mauduit,
on célèbre notre anniversaire, c'est un documentaire sur les lecteurs de Mediapart qui parlent de leur journal.
Hervé Gauthier, demain le rendez-vous économique sur France Info Télé.
À 7h10, on posera la question qui fâche, y a-t-il trop de fonctionnaires en France?
Merci également à Maude Guillaumin d'avoir participé à ces informés de France Info. Le rendez-vous politique 8h30 à Paty Toussaint, demain avec Gilbert Collard, le député Front National du Gard. À la réalisation ce soir de ces informés, André Yanos, à l'édition Camille Laurent. Dans un instant, la météo, l'info, restez avec nous sur franceinfo.fr. Merci de votre fidélité.